This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Jacquier, le PDG de Mythic Europe, pionnier de la rencontre en ligne appartenant au groupe Match, qui est le leader mondial d'ailleurs de la rencontre en ligne.
Oui, en effet. Bonjour Alice.
Salut, je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Alors, explique-moi un peu toutes les activités de Mythic Europe.
Alors, Mythic Europe, on connaît Mythic. Mythic Europe, c'est le leader de la rencontre amoureuse en Europe. On est une entreprise française. On a commencé en France il y a un peu plus de 20 ans et puis on est un succès européen parce qu'on opère aujourd'hui dans 21 pays en Europe et on est tous basés à Paris. 250 collaborateurs qui opèrent depuis Paris pour toute l'Europe et pour une mission, nous, on crée de la rencontre pour créer des histoires d'amour. C'est ça notre mission.
Et ça fait combien de temps tu me disais que, ça avait été
créé ? Ça fait 21 ans que ça a été créé.
Seulement ? Mais vous avez bouleversé la rencontre en ligne en 21 ans. Enfin, la rencontre.
Même. La rencontre, c'est vrai, oui.
En 21 ans, maintenant, tout le monde se rencontre sur les apps, quoi.
Oui, il y a une espèce de révolution sociétale, là, en 20 ans, qui s'est produite. Il y a 20 ans, personne ne se rencontrait en ligne. Et aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Il y a près de la moitié des célibataires qui se rencontrent en ligne. Donc, c'est colossal.
Ouais. Et du coup, c'est quoi les enjeux sociaux, sociétaux, et puis tous les enjeux en matière de développement durable auxquels font face Mythic ?
Alors, Mythic, déjà. Par nature, notre mission, on a une responsabilité sociale, on va dire, par essence, qui est extraordinaire, puisque on favorise la rencontre, on crée des histoires d'amour, quelque chose qui n'a pas d'équivalent, on va dire.
Tu connectes des gens qui ne seraient pas voués à se rencontrer, en fait.
Oui, c'est ça. On offre des possibilités aux gens, on a créé des millions de couples depuis notre création. Donc, effectivement, on a un impact social aujourd'hui, depuis 20 ans, qui est absolument gigantesque. Et ça, c'est une énorme fierté pour moi, pour tous les collaborateurs de Mythic. Quand on se lève le matin, on se dit, aujourd'hui, oui, on va contribuer à créer des histoires d'amour. Donc, notre impact social... Il est extrêmement réel. Après, au-delà de ça, de l'impact purement social, on va dire social, sociétal, on a développé depuis quelques années une notion plus élargie de RSE, comme on dit, où on va se préoccuper des sujets d'environnement. D'éco-responsabilité, c'est comme ça qu'on le dit, parce qu'on est une entreprise du numérique et on est une entreprise de premier plan, connue. On a une empreinte carbone, comme toute entreprise, et spécifiquement dans nos métiers du numérique, que ce soit de la technologie ou que ce soit du marketing, parce que tout le monde a vu une pub Mythic, tout le monde connaît Mythic, on a une telle surface qu'on se dit que oui, on a une vraie responsabilité à faire des choses et à faire bouger les lignes dans ce domaine.
Alors, comment tu fais justement pour la minimiser, ton empreinte ? Parce que finalement, c'est l'empreinte du numérique avec les data centers. J'imagine que toi, tu en as un paquet de data. D'ailleurs, que tu vas devoir aussi... tu dois faire attention à tout ça.
Oui, alors d'abord, la data, c'est le cœur de Mythic. C'est vraiment le sujet. On a un gros sujet de confiance. Déjà, sur la façon dont on gère la data, là, c'est sûr que la sécurité, le respect de la vie privée... Mmh. À la fois la cybersécurité pour se protéger contre des attaques hostiles de l'extérieur, et puis la façon dont on traite les données, parce que c'est sensible, parce que c'est au cœur de la vie privée de nos utilisateurs. Donc, évidemment que la data, elle est au cœur de nos préoccupations. Après, il y a toute une infrastructure technologique autour de ça. Schématiquement, ce que vous voyez de Mythic, c'est une app, des sites, en France, partout en Europe. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est derrière des serveurs, des grosses infrastructures, on appelle data centers, qui sont potentiellement consommateurs en énergie. Donc, c'est ça notre empreinte numérique, on va dire. Et c'est aussi l'impact que nos applis, elles peuvent avoir sur le téléphone du client à la fin.
Scope 1, scope 2, scope 3.
Scope 1, scope 2, scope 3, exactement. donc, c'est par là qu'on a commencé. Moi, il y a 5 ans, un peu moins de 5 ans, je suis passé patron de Mythic. Et c'était un des premiers mouvements que j'ai voulu enclencher. En me disant, effectivement, au cœur de nos valeurs, on a cette notion d'impact social, sociétal. Et on doit pouvoir faire quelque chose. Alors, peut-être qu'on peut considérer comme ça, bon, une app, c'est pas beaucoup, quoi. L'impact d'une app, c'est pas tant que ça.
Tu l'as calculé d'ailleurs ?
Oui, on l'a calculé, on a commencé par ça en se disant, bon alors c'est quoi le bilan carbone, l'empreinte carbone de Mythic Europe ? L'ordre de grandeur, c'est 1000 tonnes équivalent carbone. 1000 tonnes équivalent carbone, parce que je te vois foncer un œil.
Ouais, j'essaie de me faire un équivalent, j'arrive
ben,
pas.
Eh bien, un Français moyen, c'est entre 5 et 10 tonnes par an. Donc, on représente 100 à 200 personnes. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup à notre budget. Moi, tout ce que je sais, et tout ce dont on a convenu avec les collaborateurs, c'est qu'on peut le réduire. On peut faire quelque chose. C'est pas parce que c'est petit ou gros qu'on a plus ou moins de levier.
Puis c'est la responsabilité de chaque entreprise de la réduire. D'ailleurs.
C'est notre responsabilité. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est... Bon, en 2019, quand on a commencé ça, on était plutôt autour de 1400-1500. Et on s'est dit, bon voilà, il y a les accords de Paris qui nous définissent un objectif à 5% de réduction par an. Donc, on s'est dit, on doit pouvoir viser de faire deux fois mieux. Donc, notre objectif, c'est 10% de réduction par an. Pour l'instant, on le tient.
Tu fais comment ?
Eh bien, c'est ça qu'on va discuter.
T'enlèves des utilisateurs, non ?
Hop. Eh bien, alors justement, c'est un bon point, c'est que surtout, il faut le faire dans un contexte de croissance. On est quand même une boîte en croissance, toujours.
Bah ouais. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, puisqu'on a de moins en moins peur, même si nos data, elles sont un peu partout. Avant, on avait peint. Je suis utilisatrice d'applications, donc je le vois. On avait peur d'utiliser une app parce que bah on savait pas trop. C'était un peu. Aujourd'hui, c'est devenu lambda. Tout le monde a des apps de rencontre. Donc, je pense que tu as de plus en plus d'utilisateurs, en fait.
Bah, y a de plus en plus d'utilisateurs. Et puis, les usages peuvent devenir de plus en plus sophistiqués. Parce que...
ouais, les photos, elles pèsent plus lourd. Bah, les vidéos. Sont...
Les photos et les vidéos, c'est vrai que. Par rapport à une situation, je sais pas moi, il y a 10 ans, par exemple, où. On disait site de rencontre, il y a encore 10-15 ans, c'était un site web, c'était assez simple, des photos, du texte, puis des photos basse qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt, on a beaucoup enrichi la façon d'interagir. Donc effectivement, il y a de la vidéo, il y a beaucoup d'audio, parce que l'audio, c'est hyper important dans la relation.
Tu peux laisser des vocaux.
Tu peux laisser des vocaux, et puis la voix, ça dit quand même beaucoup sur toi, donc c'est aussi une autre façon de se découvrir. Donc la voix, c'est extrêmement important, et on est là pour en témoigner. et puis évidemment, les photos,
puis
le texte.
Puis il y a les vidéos maintenant, vous avez des vidéos ?
On fait de la vidéo, c'est plutôt de la vidéo en one-one, pour de la mise en relation. Une fois que les utilisateurs ont matché, ils peuvent échanger par texte
mais
et puis à un moment ils peuvent faire cette vidéo.
Lourd,
mais quand même c'est plus gros.
Bah
voilà.
Ouais.
Donc nous on a une croissance des usages, on va dire, et puis on a une responsabilité de faire diminuer l'impact de tout ça. Donc bah voilà, c'est ça la problématique. Comment on fait ? On a agi sur 5 piliers, on va dire, et on a mobilisé toute l'entreprise autour de ça. Donc il y a un vrai sujet de démarche. Il y a un vrai sujet d'agir sur le produit, sur les infrastructures, sur les campagnes marketing. Et puis, il y a un sujet sous-jacent qui est peut-être le plus important, qui est d'agir sur la culture, en fait. Parce qu'on est 250 collaborateurs et que je disais, notre empreinte à nous, c'est un peu plus de 1000 tonnes équivalent carbone. Mais si chacun, et c'est ce qu'on essaie de pousser, commence à avoir des bons petits réflexes, des petits gestes sur éco-responsable et qu'il les ramène à la maison, on a aussi un impact potentiel qui est encore plus large.
Mais ça,
nous,
comment
en tant que
collaborateurs Mythic, tu leur demandes de faire leur empreinte carbone.
Non, mais je peux les sensibiliser. Ça veut dire que si on commence là-dessus sur la partie culture, tout nouveau collaborateur qui rejoint Mythic, il signe une charte des bons comportements. On a une dizaine de points sur. C'est plus de la sensibilisation et du bon sens, on va dire, mais ça va mieux en le rappelant. Sensibilisation sur les éco-gestes, sur le tri, sur j'éteins mon écran, je fais attention dans toutes mes consommations, on va dire. Hein. On agit aussi sur les déplacements de nos collaborateurs, c'est de favoriser les déplacements.
Vous êtes où d'ailleurs en France ?
On est dans le centre de Paris.
Donc c'est central finalement.
C'est central et c'est un bon moyen justement de limiter les déplacements en voiture, parce que c'est comme cela qui pèse, parce qu'on est extrêmement bien desservi par les transports en commun. Puis on a aussi des collaborateurs qui peuvent venir à pied ou en vélo pour les plus chanceux. Mais donc voilà, s'intéresser à la culture, s'intéresser aux collaborateurs et les mettre au cœur du sujet, ça c'est extrêmement important. Après, je disais une série d'actions. Peut-être commencer par la démarche. La démarche, c'est tout de suite, on a mesuré notre empreinte carbone. On est entreprise numérique, on parlait de data, on est habitué à mesurer tout ce qu'on fait, à mesurer pour rendre plus performant. Et donc, on s'est dit, c'est une bonne façon. On prend ce qu'on a, ce qu'on est nous, une boîte organisée, et on commence à fonctionner comme ça. Donc, on mesure notre empreinte carbone, et puis on se dit, ça commence à prendre de la taille, de la place. Comment est-ce qu'on fait pour réduire tel poste, tel poste, tel poste? Et la démarche, on l'a inscrite dans la durée parce qu'on s'est fait labelliser ISO 14001, qui est un processus plutôt de l'univers industriel, qui vise à de l'amélioration continue. ISO 14001, le sens de cette démarche-là, c'est de dire, on peut faire toujours un peu mieux. Donc, tous les gains qu'on a, on les consolide en un sens. Ça veut dire qu'on a gagné 10% cette année. On ne les perdra pas l'année prochaine. C'est acquis dans la durée. Et l'année prochaine, on essaiera de faire encore 10% et puis l'année suivante, encore 10%. Et on avance petit à petit parce qu'on arrive à gagner progressivement. Et à chaque fois qu'on gagne quelque chose, on peut se dire, on a fini sur ce domaine-là. Non, parce qu'avoir gagné sur un domaine, par exemple le produit, on en reparlera, ça nous ouvre d'autres possibilités. Et c'est-à-dire que l'année suivante, on arrive à trouver des nouvelles façons de faire, des nouveaux leviers pour réduire notre impact.
Et c'est quoi le poste, justement, le plus carbonivore, on va dire? Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut employer, mais qui a la plus grosse empreinte carbone. Ça fluctue, c'est la data, non, chez vous?
C'est les serveurs.
C'est pour ça que j'ai dit
C'est les espaces. Ouais. Il y a la data et puis il y a aussi tous les processeurs, parce que nos serveurs, c'est des grosses machines, des gros ordinateurs.
Et comment tu fais alors pour la baisser, cette empreinte?
Là-dessus, schématiquement, on a des serveurs dans des data centers. Ouais. Donc, c'est une grosse machine qui est branchée dans des salles climatisées. Donc, d'abord, il faut discuter avec le data center pour améliorer les performances du data center, pour que l'énergie utile pour ton serveur par rapport à l'énergie consommée. Et l'écart entre les deux, c'est la climatisation, c'est ce genre de choses.
Tu peux même la réutiliser, ta chaleur.
C'est le rôle du data center, mais nous, notre rôle, c'est de choisir le bon fournisseur de data center.
Okay.
De faire en sorte que ce ratio-là il soit le plus efficace possible. Et de l'inciter à faire toujours mieux. De dire, on est dans une relation partenariale. Nous, on a des gains à aller chercher. On compte aussi sur vous. Entraîner le partenaire dans la démarche, ça fait partie du sujet. Donc ça, c'est sur la partie data center. Après, sur la partie serveur en tant que tel. Par exemple, on a ce qui détermine l'énergie qu'on consomme et donc l'empreinte carbone à la fin, c'est le nombre de serveurs, grosso modo. Hein? On a réduit par 2,5 le nombre de serveurs, en quelques années.
Avec plus de data.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, on achète des serveurs plus récents, qui sont plus efficaces. Et puis, on a des ingénieurs qui sont quand même forts là-dessus, qu'on arrive à utiliser mieux nos serveurs, parce qu'un serveur, sur Mythic, il y a plein de gens qui peuvent être connectés le soir à 20h et puis moins de gens à midi ou le matin à 8h. Donc, nous, équilibrer la charge de nos serveurs, c'est un travail permanent et on peut gagner là-dessus aussi. Donc, on peut gagner sur la récence des serveurs, on va dire, et puis on peut gagner sur la façon dont on les utilise.
Et on en fait quoi des anciens serveurs, du coup?
On fonctionne avec des brokers.
D'accord.
Qui nous permettent soit de les réutiliser, soit de les recycler.
C'est parce que je ne connais pas, ça m'intéresse, je trouve ça hyper intéressant. Donc là, finalement, vous n'avez même pas d'empreinte, c'est réutilisé, c'est repris un petit peu.
Il y a toujours une empreinte,
Mais bien sûr, rien que le transport.
Donc se soucier du sourcing, quel type de serveur on achète, et puis après, de la fin de vie, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Ça fait partie, effectivement, de cette approche sur les serveurs.
Et tu me parlais du produit. Alors, tu as fait quoi au niveau du produit?
Alors, le produit. Simplement, c'est une app. C'est une app, très, très simple. Mais c'est une app quand même assez sophistiquée, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Le produit, comment on fait? Au début, on s'est posé la question et on a donné la main aux collaborateurs. On a organisé plusieurs hackathons sur le thème. Un hackathon, c'est tous les collaborateurs. On dit pendant 2 jours, la question, c'est comment réduire notre empreinte carbone? Et puis, des groupes se forment, des gens viennent, porteurs d'idées, ils agrègent autour d'eux une petite dynamique et puis ils ont 2 jours pour rendre un vrai produit, une vraie proposition. Et là, il y a un hackathon, notamment, qui a débouché sur un outil extrêmement intéressant qu'on a développé, qui s'appelle Green Tool. C'est un outil pour les développeurs informatiques qui leur permet, à chaque fois qu'ils tapent du code, de mesurer l'impact que ce code va avoir sur la consommation énergétique de l'app. Sur la taille de l'app, sur la quantité de data, on disait que ça échange, sur l'impact sur les téléphones de nos clients. Ça permet une simulation. Et donc, ça permet d'avoir du feedback immédiat pour le développeur qui dit, bah, en fait, le code que je fais, si je le fais comme ci ou comme ça, il y a une vraie différence d'impact. Et donc, ça permet d'intégrer de l'éco-conception, appelons-le comme ça, au cœur de la façon dont fonctionnent nos développeurs. Et Green Tool, moi, je suis extrêmement content, on a une trentaine d'indicateurs qui nous permettent voilà, de mesurer un petit bouger, on va dire, d'un développeur sur son code. Qu'est-ce que ça donne comme impact à la fin?
Ce qui est dingue, c'est que vous avez réussi à faire de l'intrapreneuriat au sein de la boîte, finalement, en créant cette...
On a valorisé les compétences qu'on avait. Ça veut dire que c'est dans la culture mythique aussi d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, d'avoir des idées qui fusent et d'essayer de les mettre en œuvre. Donc là, les hackathons, ils ont permis d'identifier ces idées. Et puis ensuite, effectivement, bah, c'est mon rôle notamment que dire ça, c'est une bonne idée, on y va. On met de l'énergie, on met des ressources là-dessus parce qu'on y croit et on va le faire.
Et on parlait aussi, bon, on a parlé pas mal de l'environnemental. Sur le pendant social, il y a quand même pas mal de... On doit renseigner pas mal de critères sur les apps qui peuvent être à la fois excluants, même si finalement on se définit, ça fait quand même un peu catalogue. Donc on donne son sexe, son orientation genre, sexuelle, ouais. Son genre, sa religion parfois, pratiquement, etc. Est-ce que parfois on fait, enfin vous devez faire face à des, peut-être pas des polémiques, mais des litiges entre utilisateurs. Enfin, en plus, là, on voit en ce moment, il y a quand même un conflit assez important. Est-ce que ça peut être parfois un petit peu dangereux?
Dangereux, non. Mais nous, notre objectif, c'est de créer un espace de confiance. Nous, notre système, la rencontre, ça ne fonctionne que si les utilisateurs ont confiance. Donc, pour créer de la confiance, à la fois, on leur demande d'être le plus authentique possible. Et c'est pour ça qu'on a des questionnaires, enfin, des profils qui peuvent paraître un tout petit peu longs parfois, parce qu'on demande des informations.
Par rapport à d'autres applications, vous, c'est presque le plus détaillé.
Nous, c'est le plus détaillé. Ouais. On se fait une fierté d'avoir des profils qui
pour
sont très riches.
Pour pouvoir avoir le point, exactement.
Parce que du coup, ça facilite aussi la rencontre ou les premiers pas. Je vois un profil, une photo, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Comment je fais pour engager la conversation, pour briser la glace, on va dire? Il faut des petits points d'accroche. Et il faut quelque chose qui dit que la personne que j'ai en face de moi me ressemble, entre guillemets.
Ou me convient. Elle n'est pas obligée de me ressembler pour me convenir. Non, mais ça qui est hyper important,
exactement.
C'est que parfois, on cherche un... Enfin, moi, par exemple, je sais que je suis plutôt du style à chercher l'opposé de qui je suis. Et d'autres personnes veulent... Enfin, il y a le côté un peu... Pas secte, hein, mais je trouve que parfois, voilà, c'est des profils qui vont avoir la même religion, la même ethnie, etc. Un peu comme les rallyes dans les religions. Et c'est peut-être ça, parfois, qui peut être... Enfin, je ne sais pas comment exprimer cette question parce qu'elle est, qui peut être problématique, dirons-nous. En fait, le côté, voilà, je veux quelqu'un qui me ressemble, ça fait un peu catalogue quand même.
Oui, mais c'est toute la difficulté, c'est qu'on parle beaucoup d'algorithmie. On dit c'est l'algorithme qui fait.
Mais en
fait,
c'est
pas vrai. Il y a des algorithmes, bien sûr, mais les algorithmes, ils ont pour but de présenter des gens qui peuvent te convenir. Les gens qui peuvent te convenir, on peut. C'est quoi les critères? Il y a des critères d'un côté qui sont un tout petit peu exclusifs. Par exemple, je cherche des gens qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants.
Oui, ça par contre,
je cherche
là,
des
ouais.
gens qui sont proches de chez moi ou c'est indifférent. Je cherche des gens qui fument ou qui ne fument pas. Par exemple, ça, c'est un critère assez structurant. Donc là, il y a des critères, on va dire, d'exclusion. Bon. Puis après, il y a des critères plutôt d'adhésion. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir connecter? Bah oui, peut-être qu'il faut que tu parles de mes hobbies, du sport que je pratique, que je sois capable de dire deux, trois choses sur moi de manière libre aussi, pour ne pas enfermer dans un formulaire.
L'algorithme n'est pas, par exemple, de religions similaires, de...
Ah non, surtout pas.
D'accord.
En fait, surtout pas, parce que en faisant ça, on enfermerait les gens dans quelque chose, une espèce de bulle. Et en fait, on a testé, ça ne marche pas de toute façon. Ça n'est pas ça que les gens recherchent. Ils recherchent justement un subtil équilibre. Et c'est là où il faut rendre la main à l'utilisateur à la fin. Un équilibre entre des gens qui me conviennent, qui me ressemblent, et de l'autre côté, bah, surprenez-moi. Surprenez-moi. Il faut un peu des deux. Le match parfait, ça n'existe pas comme ça, a priori. C'est aussi, il y a la joie de la découverte. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé, je disais, un peu de vidéo, on a développé beaucoup sur l'audio, parce que je disais, la voix, par exemple, c'est une manière de découvrir quelqu'un. Moi, je suis toujours assez fasciné. On a lancé l'audio il y a 3 ans. Donc, tu fais un voice et puis tu peux enregistrer un voice que tu as sur ton profil. Et la voix, ça raconte énormément. Ça raconte parce qu'il y a une espèce d'émotion qui passe.
Avec la voix, ça passe ou ça casse, hein, d'ailleurs.
Et ça passe ou ça casse. Ah, mais au moins, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est beaucoup plus riche comme découverte, on va dire, que juste une photo. Même s'il y a des photos qui peuvent dire beaucoup sur toi, selon le décor, la mise en scène que tu choisis sur ta photo. Ça raconte beaucoup aussi sur ta personnalité. Mais la voix, c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment un plus. Donc, moi, c'est ça le métier.
Donc, l'algorithme
mythique
n'est pas enfermant.
Non, l'algorithme, il est là juste derrière. L'essentiel, c'est donner la main à l'utilisateur pour choisir la façon dont il va découvrir des profils. Il va découvrir des profils, peut-être en regardant des listes de profils comme ça, puis en jouant sur la photo, mais il peut aussi découvrir, sur certains critères, qui est-ce qui partage les mêmes affinités que moi, ou tiens, si j'écoutais des voix au hasard, on a un petit jeu où on fait écouter des voix au hasard. Tu peux découvrir les gens uniquement au son de leur voix et dire, cette voix-là, elle me plaît. Mais c'est une découverte, entre guillemets, à l'aveugle. Bon. Et puis ensuite, si ça marche, tu vois le profil et puis après, ça match et puis ça continue.
Et comment tu peux leur assurer que face à eux, ils n'ont pas un psychopathe? Ça peut être compliqué, hein, parce qu'il y a des profils sociopathes, hein, mais qu'on ne peut pas trop déceler, il faut les avoir fréquentés. Mais comment vous pouvez être sûr de ça? Ça peut être des personnes très bien, surtout les...
Eh bien, on fait... c'est un énorme effort. On a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on met à disposition de nos utilisateurs. D'abord, on essaye de filtrer au maximum les profils, c'est-à-dire
ceux qui sont
vérifier.
Dénoncés. Il y a peut-être des personnes qui se dénoncent plus.
Il y a des outils pour l'utilisateur de dire je peux dénoncer, je peux bloquer, je peux signaler. Donc, mais c'est assez classique. Simplement, si je signale un profil, c'est automatiquement remonté et on a des humains, des gens au service client chez nous, qui regardent et puis qui sont capables de juger n'importe quel profil qui serait signalé. Moi, il y a un humain qui va vérifier derrière ce qui se passe. Après, on a beaucoup d'algorithmes aussi pour essayer de détecter des faux profils, ou des comportements un peu particuliers, on va dire. Et puis surtout, redonner la main à l'utilisateur. Pour mettre l'utilisateur en confiance, il faut aussi lui dire qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Donc, on a des sortes de bons comportements. Et ça a pour but à la fois de sensibiliser ceux qui pourraient être du côté des méchants, on va dire, comme ça, mais ça a pour but aussi de dire aux potentielles victimes, mais non, il n'y a aucune raison que vous ayez à subir ça. Ça veut dire que si quelqu'un vous insulte ou vous parle mal de manière déplacée, vous devez le signaler. Allez-y, et on est à vos côtés. Et le fait de dire on est à vos côtés, c'est ça qui est important, en fait. Et après, on a tout un arsenal effectivement répressif pour essayer d'empêcher au maximum des comportements... non sollicité, on va dire.
Et c'est quoi alors l'avenir de Mythique, selon toi?
L'avenir de Mythique, c'est de continuer à être une référence dans un univers, un secteur qui continue à se développer.
Qui est de plus en plus concurrentiel.
C'est vrai qu'en 20 ans, on est passé de 0 à 50% des gens, je disais, qui utilisent une app pour se rencontrer. Donc là, il y a toujours une progression. Ça continue. Ça continue, mais ça continue parce qu'on fait des efforts pour dire qu'effectivement, il y a de la confiance, pour dire qu'en fait, on parle de réel et d'authentique. Et moi, je crois beaucoup qu'il y a un créneau très fort là-dessus. Il y a une vraie part de la population qui attend, quand il va sur une app de rencontre, des vraies rencontres, on va dire. Nous, c'est là-dessus qu'on joue. Effectivement, il y a de plus en plus d'apps de rencontres, mais il y a aussi beaucoup d'apps de rencontres qui sont juste plus légères ou plus superficielles, on va dire. C'est pas notre rayon. Nous croyons au réel, à l'authentique.
Donc, Mythique, c'est le mariage.
Non, c'est pas le mariage, mais... Autant le désir amoureux, le désir d'être à deux, je crois qu'ils sont toujours là, toujours plus forts. Les gens ont vraiment envie d'être en relation, on va dire. Par contre, la forme de la relation, elle peut changer. On peut avoir une relation où on s'engage, mais qui ne soit pas forcément du mariage. D'ailleurs, quand on regarde une belle histoire, quand on demande à nos utilisateurs c'est quoi une belle histoire et comment vous, par exemple, on a interrogé nos utilisateurs qui étaient en couple. Et on a essayé de remonter le fil du temps avec eux, de dire, en fait, comment vous êtes rencontrés. Et en fait, ils se rencontrent, ça match sur l'appli. Une semaine après, ils vont se rencontrer dans la vraie vie. 3 semaines après, ils peuvent coucher ensemble, ça peut arriver quand même. Mais ils vont emménager ensemble peut-être 3 à 6 mois ensuite.
3 mois après, emménage ensemble.
Moi, je suis
pas faite pour les apps.
Non, mais 3 à 6 mois, mais ils vont se marier.
3 à 6 ans après.
Ouais, peut-être. Alors, mais ils vont peut-être se marier pour ceux qui se marient 2 ans après, ça vient tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'échanger leurs clés presque avant de se dire je t'aime. Le fait de dire je t'aime, Ben oui, c'est ce que tu dis, c'est difficile, hein, c'est un vrai engagement. Il y a plein d'autres formes d'engagement qui peuvent exister. Donc, c'est ça qu'on défend. Ça veut dire que, oui, on peut s'engager, on peut avoir une relation sérieuse, on va dire, et on continue à croire à ça. À nous de prouver qu'une relation sérieuse, c'est pas forcément... le sérieux, c'est pas forcément ennuyeux, quoi. Ça peut être quelque chose d'extraordinairement enthousiasmant. Ben oui, on a des papillons dans le ventre. Donc, cette sensation des papillons dans le ventre, c'est ça pourquoi on se bat.
Donc finalement, Mythique, c'est une app de rencontre durable sur tous les sens, tous les sens du terme, durable pour l'environnement.
En effet.
Et puis pour des rencontres plus pérennes. Ouais. Bah, écoute, je te souhaite de continuer à incarner l'amour, parce que c'est quand même très joli de défendre l'amour et de faire se connecter les gens. Et puis de continuer à essayer de décarboner au maximum, parce que tu vas avoir de plus en plus d'utilisateurs. Je pense, ça ne cesse d'augmenter et les datas, de les utiliser à bon escient.
Bah, c'est ça, toujours plus d'amour et toujours moins de carbone. Ouais.
C'est pas mal ça comme slogan.
On y pensera.
Merci.
Merci Alice.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.